Elle se réveille aux environs de minuit, incapable de dire quand elle s'est endormie. Elle cligne des paupières une demi-douzaine de fois et jette un regard clair de l'autre côté du parc. La caddie est toujours là où Frank Toomey l'a garée. Seigneur. Coup de bol, rien de plus. Elle décide de rester éveillée, même si elle doit se faire une entaille. Mais au milieu de sa cigarette suivante, ses paupières se mettent à trembler. Elle sort de la voiture. Elle reste là, debout, dans l'air moite, les poignets appuyés sur le toit de Bess, fumant sa cigarette. Elle aperçoit une cabine téléphonique un peu plus loin, au coin de la rue. Un angle de vue parfait sur la voiture de Frank de là-bas. Alors elle s'y traîne lentement, entre dans la cabine et referme la porte derrière elle. Elle réfléchit à qui elle peut appeler à une heure aussi tardive. Ou d'ailleurs à n'importe quelle heure désormais, se fait-elle la réflexion avec le pincement au cœur de l'exilé. Puis elle glisse une pièce de 10 cents dans la fente et compose un numéro.
« Mary Pat, »
dit-il quand on lui passe la communication.
« Comment avez-vous su que j'étais de service cette nuit ?»«
La chance des Irlandais, inspecteur. »
« On a retiré de la circulation 3 méchants fusils automatiques ce matin. »«
Vraiment ?»«
Tout à fait. Merci. » »«
Si vous avez travaillé ce matin, comment se fait-il que vous soyez encore au bureau ?»«
Je suis rentré chez moi et j'ai dormi un peu, »
dit-il.
« Mais je suis revenu. Tout le monde fait des heures sup. La moitié des flics de la ville sont en train de se préparer pour demain. Beaucoup sont allés maintenir l'ordre dans votre coin ce soir. »
« Je vous ai vu à l'enterrement d'Oggy Williamson. »«
Je vous ai aperçu aussi. »«
Pourquoi vous êtes parti si vite ?»«
On a obtenu un mandat qu'on attendait depuis un moment. »« On devait aller le notifier à un enfoiré qui a tué sa petite amie, histoire de l'arrêter avant qu'il tue quelqu'un d'autre. »
Ça a dû vous donner une certaine satisfaction?
Pas vraiment. La plupart du temps, ce que je fais me donne l'impression d'effectuer un travail d'éboueur.
Il ne parvient pas à réprimer un bâillement de pure fatigue.
J'ai entendu dire que vous aviez eu quelques mots avec les parents d'Oggy.
Fait-elle.
J'imagine que ça n'a pas été agréable.
Effectivement. Il offre la même excuse que celle qu'elle a essayé de leur trouver.
Ils ont perdu un fils, de façon violente. Ils ne peuvent pas avoir une vision claire des choses.
Non. Elle prend une profonde respiration, avec un bruit humide qui se répercute dans l'espace confiné de la cabine. Il voit parfaitement clair. À travers la paroi sale, elle regarde en direction du training field où des soldats se sont autrefois préparés pour des batailles en vue de libérer les esclaves. Elle imagine qu'ils étaient jeunes, impressionnables, morts de trouille. L'herbe du terrain est devenue presque blanche dans la chaleur de l'été. Il n'y a pas eu de pluie cette saison, pas une goutte. Et sous les lampadaires, et à travers le verre crasseux, on dirait de la neige. Mary Pat ne s'est jamais sentie aussi perdue. Non, prend-elle conscience. Pas perdue. Exilée. Elle s'éclaircit la gorge et tente d'expliquer quelque chose à l'inspecteur Michael Bobby Coyne, un parfait étranger en fin de compte. Mais elle éprouve le besoin de lui dire quelque chose qu'elle ne comprend pas elle-même. Elle éprouve le besoin d'être entendue, que ce qu'elle va dire tienne debout ou non. Quand vous êtes gosse et qu'ils se mettent à vous débiter tous leurs mensonges, ils ne vous disent jamais que ce sont des mensonges. Ils vous disent juste « Voilà, c'est comme ça. » Qu'ils vous parlent du Père Noël, de Dieu ou du mariage, ou de ce que vous pouvez faire ou ne pas faire dans votre vie. Ils vous disent « Les Polacks sont comme ceci, les Ritals sont comme cela, et ne venez surtout pas nous parler des Métèques et des Nègres. C'est sûr que cela, on ne peut pas leur faire confiance. » Et ils vous disent Notre mode de vie, c'est comme ça. Et pas autrement. Et vous, vous n'êtes qu'une pauvre gosse. Alors vous vous dites, je veux faire partie de ce mode de vie. Je veux surtout pas me retrouver à l'écart de ce mode de vie. Faut que je reste avec ces gens toute mon existence. Et vous y êtes bien au chaud. Si bien au chaud. Le reste du monde, il y fait un froid terrible. Alors vous y adhérez. Vous comprenez ?
Je comprends,
dit Bobby. Et vous vous y enracinez profondément, parce que maintenant, vous avez des gosses à vous. Et vous voulez qu'ils se sentent bien au chaud. Alors, vous leur servez les mêmes mensonges. Vous leur injectez ça dans le sang. Jusqu'à ce qu'ils deviennent le genre de personne capable de poursuivre un pauvre garçon dans une station de métro et lui défoncer le crâne avec une pierre.
« Allons, ça va aller, »
dit-il gentiment.
« Non, ça va pas aller !»
hurle-t-elle dans l'espace réduit de la cabine.
« Ça va pas aller! Ma fille est morte! Et Oggy Williamson est mort lui aussi parce que j'ai vendu des mensonges à ma fille. Mais avant qu'elle finisse par les avaler, elle le savait. Ils le savent toujours. À 5 ans, ils savent. Mais vous n'arrêtez pas de répéter ces mensonges jusqu'à venir à bout de leur résistance. C'est ça le pire. Vous venez à bout de leur résistance jusqu'à extirper tout ce qu'il y a de bon dans leur cœur pour le remplacer par du poison.
Elle ne saurait dire combien de temps elle sanglote. Elle sait juste qu'à un moment, elle doit mettre une autre pièce dans le téléphone. Et même là, elle ne peut toujours pas s'arrêter de pleurer. Et tout ce temps, Bobby reste en ligne avec elle. Lorsque les sanglots se transforment en reniflements, elle entend sa voix dans le combiné.
Quoi que vous envisagiez de faire, j'aimerais que vous preniez une journée de repos.
Elle est encore incapable de parler. Elle a la gorge encombrée de liquide salé et de mucus.
Mary Pat, s'il vous plaît, prenez 24 heures, ne faites rien. Je suis prêt à vous rencontrer où vous voudrez, sans un signe, juste en ami.
Pourquoi êtes-vous mon ami ?
Parvient-elle enfin à dire.
Parce que nous sommes des parents, vous et moi.
Je l'étais. Je ne le suis plus.
Mais si vous l'êtes encore, vous le serez toujours. Et tous les parents commettent des erreurs. C'est bien la seule chose dont on puisse être sûr. Alors, oui, votre fille, Jules, avait des défauts que vous lui avez donnés, ok. Mais tous ceux à qui j'ai parlé d'elle, ils m'ont dit combien elle était gentille, drôle, quelle amie géniale elle pouvait être.
Où est-ce que vous voulez en venir ?
Ces qualités, elles viennent aussi de vous, Mary Pat. Nous ne sommes pas qu'une seule chose. Nous sommes des êtres humains. Le pire d'entre nous a du bon en lui. Le meilleur d'entre nous a le cœur qui renferme une part de mal pur. Nous bataillons. C'est tout ce que nous pouvons faire.
Pour ce qui est de la bataille, je suis plutôt bonne, dit-elle.
Ce n'est pas de cette bataille-là que je parle.
C'est à peu près la seule chose à laquelle je ne suis pas mauvaise.
Je parierais qu'il y a des tas d'autres choses auxquelles vous n'êtes pas mauvaise.
Là, vous me lancez des fleurs pour me garder au téléphone.
C'est vous qui m'avez appelée.
Et alors ?
Alors je pense que vous voulez que je vous persuade de ne pas faire ce que vous envisagez de faire.
Elle rit, et Bobby est triste d'entendre que c'est un rire amer. Je ne veux pas que vous me persuadiez de quoi que ce soit.
Alors pourquoi appeler ?
Parce qu'un jour, quelqu'un va essayer de comprendre tout ça.
C'est quoi, tout ça ?
Ce que je suis sur le point de faire.
Ne le faites pas.
Et je compte sur vous pour dire ce que je vous ai dit.
Je ne veux pas l'entendre.
Je vous l'ai dit, inspecteur Coyne. Vous ne pouvez pas tout enlever aux gens. Il faut leur laisser quelque chose. Une miette. Un poisson rouge. Quelque chose à protéger. Quelque chose qui soit une raison de vivre. Parce que si vous ne faites pas ça, qu'est-ce qui va vous rester pour négocier ?
Juste au moment où Bobby se dit qu'il aurait dû demander le repérage de cet appel, il y a déjà 5 minutes, elle raccroche. Il reste assis, le regard fixé sur le téléphone, et il se rappelle pourquoi il s'est mis à l'héroïne au début. Quand la blanche vous fait planer, le monde vous apparaît génial. Mais une fois que vous êtes redescendu, il vous apparaît comme une foutue pagaille sans espoir. Mary Pat raccroche le combiné. Elle s'appuie contre la paroi de la cabine et voit, avec une espèce d'effarement stupéfait, Frank Toomey passer en voiture juste à côté d'elle. Elle le suit, tandis qu'il retourne à Southie. Et cette fois encore, elle fait le pari qu'elle sait où il va. Alors elle ne le colle pas de trop près. Et il lui donne une raison en s'arrêtant devant chez lui, dans West 9th Street. La rue est si tranquille qu'on pourrait entendre quelqu'un se moucher dans la rue suivante. Quand Frank ouvre sa portière, elle perçoit le grincement des charnières. Bess est déjà en mouvement. Mary Pat a enlevé le pied de l'accélérateur et elle laisse simplement son tas de ferraille brinque-ballant continuer sur sa lancée. Pour enfoncer la pédale, elle attend que Frank ait refermé sa portière et se penche pour la fermer à clé. « Voilà, on y est », se dit-elle. « C'est la fin. Je l'écrase, je fais marche arrière pour finir le boulot si nécessaire, et je me tire. Et je vois jusqu'où le fric et la chance me permettront d'aller. Et faut pas se mentir, ça ne me mènera pas bien loin. Après, je meurs sous les balles de la police ou celles de la bande de Butler, parce que je n'irai pas en prison et je ne laisserai pas ces vermines de Butler poser la main sur moi. » Mais Frank se retourne et, voyant Bess foncer sur lui, il se jette au sol. Il roule sous la caddie et réussit presque à s'en tirer, presque parce que les roues lui écrasent une jambe. Sous sa caddie, il pousse un hurlement perçant. Mary Pat pile dans un crissement de pneus et sort de sa voiture. Des lumières s'allument, d'abord dans la maison du voisin direct, puis dans celle de Frank. Il a rampé sous sa voiture et essaie de se relever sur un pied sur le trottoir. Il plonge la main sous sa veste pour sortir un flingue, mais déjà, Mary Pat a contourné la caddie avec son revolver pointé sur lui, sa perruque glissant sur le côté droit de sa tête, et elle fait feu. La balle passe loin de lui et va se perdre dans ce qui, d'après le bruit, semble être une poubelle plus loin dans la rue. La main de Frank dégage le pan de sa veste. Il y a quelque chose en dessous, c'est sûr. Elle s'applique pour viser, tire une deuxième fois et elle entend Frank crier « Putain de merde !» Il laisse tomber son arme et se plie en deux. Le sang pisse d'un trou dans son ventre, coule entre ses doigts sous la lumière blanche du lampadaire et dégouline sur le devant de son pantalon blanc. Malgré la balle dans le ventre, il essaie de foncer sur elle. Mais son pied gauche esquinté ne se montre pas coopératif. Frank commet l'erreur de s'appuyer dessus et il pousse un hurlement. En fait, c'est plutôt un braillement. Et il tombe sur les genoux, se retrouvant à 4 pattes au pied de Mary Pat au moment où elle lui colle le canon de son revolver sur le sommet de son crâne. « Papa !» Mary Pat lève les yeux et voit la petite fille sur le perron. Agnès s'accroupit derrière la petite pour la retenir. C'est la plus jeune des filles de Frank, Caitlin, celle qui a fait sa première communion il y a tout juste quelques mois.
« Faites pas de mal à mon papa !» hurle-t-elle. « S'il vous plaît, madame, s'il vous plaît !»
Frank agrippe les jambes de Mary Pat. Elle le frappe avec la crosse de son arme. Caitlin braille
« Lui faites pas de mal !»
Le voisin, Rory Trescott, se précipite vers eux une batte de baseball levée. Mary Pat fait feu, visant largement à côté, et Rory se jette à plat ventre. Frank bascule sur le flanc, le sang s'échappant à petits jets du trou dans son ventre, comme l'eau d'une fontaine paresseuse. Mary Pat ramasse le pistolet de Frank sur le trottoir et le glisse dans sa ceinture. Caitlin Toomey descend du perron, tandis que sa mère essaie de l'empoigner pour la retenir. Mary Pat crie « Retenez-la, nom de Dieu !» Agnès agrippe sa fille. Mary Pat enfonce les deux mains dans les cheveux généreusement gominés de Frank et s'assure une bonne prise. Elle le traîne sur l'asphalte en direction de Bess. Putain, qu'est-ce qu'il est lourd! Elle a l'impression de tirer un frigo. Et dans l'effort, elle perd sa perruque qui tombe sur la chaussée dans le sang de Frank.
« Je t'ai reconnu, Mary Pat !»
lance Agnès.
« Je t'ai reconnu !»
Mary Pat parvient à ouvrir la portière arrière. Elle empoigne les mains de Frank, la droite d'abord, puis la gauche, les place dans son dos et referme les menottes sur ses poignets. Elle hisse Frank sur la banquette arrière comme s'il s'agissait d'un tapis roulé. Elle le pousse jusqu'à ce qu'il soit complètement rentré. Elle claque la portière et fait le tour de la voiture en courant.
« Je t'ai reconnu !»
lance de nouveau Agnès.
« Je t'ai reconnu! Je t'ai reconnu !»
Mary Pat se met au volant, pousse le levier en position marche avant et démarre. Quelques rues plus loin, Frank gémit sur le siège arrière.
« Je saigne salement !»«
Je sais !» répond Mary Pat.
« Je pourrais me vider de mon sang !»«
Ah, merde, Frank !» dit Mary Pat. « T'as pas idée à quel point ça me briserait le cœur !»